explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
L'album de souvenirs du temps d'un bivouac nous emmène pour cette dernière dans l'univers des arbres et des plantes qui soignent. Nous retrouverons d'abord le botaniste Francis Allais qui, depuis plus de 50 ans, arpente les forêts tropicales de la planète, de l'Amazonie à l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Afrique. Après toutes ces années passées à étudier et à observer les forêts du monde, ce grand spécialiste des arbres a acquis une certitude. L'essentiel à leur sujet reste à découvrir. Il est des rencontres que l'on n'oublie pas, celles avec Francis Allais en fait indéniablement partie. Puis nous nous intéresserons aux vertus thérapeutiques des plantes avec l'ethnopharmacologue Jacques Florentin qui a parcouru la planète pour observer les flores locales et rencontrer des herboristes, des chamans ou encore des guérisseurs qui ont accepté de partager avec lui leur savoir sur les plantes qui soignent. À 17h, nous retrouverons Anne Pastor pour le dernier reportage de sa série Voyage en terre indigène, une histoire oubliée des peuples francophones. Mais tout de suite, on part bivouaquer sur la cime des grands arbres avec Francis Allais.
Voilà notre arbre, il est à 1h200 mètres, est-ce que tu le vois ?
Les fleurs blanches ?
Voilà, les fleurs blanches.
Ça, c'est joli ça.
Hein. Alors, elles sont vraiment bonnes celles-là.
Hein. Ouais, ça sent juste là. Hein. Voilà, il y a des oiseaux ici, les calaos, là, ils sont absolument pas timides. Il nous arrive de passer très très près avec la luge au dirigeable.
Bien, des singes devant à 11h. Laurent, à 11h, des singes, dans les fruits, là. Regarde, 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 ils sont noirs, c'est des noirs. Tu les vois ? Ils sont dans les branches du haut, là.
Impression surréaliste avec le son de ces singes hurleurs. Nous étions à bord du dirigeable qui guide la luge des cimes pour aller faire glisser cette drôle d'embarcation sur la cime des grands arbres de la forêt tropicale. La luge des cimes, c'est un peu la cousine du radeau des cimes dont vous êtes l'un des co-inventeurs, Francis Allais.
Oui, c'est plus petit que le radeau, ça se pose pas. Et on demande aux pilotes de nous amener vers tel ou tel endroit qui nous intéresse.
Ouais. Ce radeau des cimes, alors on l'a un peu en tête, mais décrivons-le quand même. Ce sont des gros boudins gonflables et des filets qui relient tous ces boudins. Et ça permet de se poser là, littéralement, à la cime des grands arbres. Alors racontez-nous, c'est une sensation évidemment un peu unique. Quelle sensation on a quand on évolue sur le radeau des cimes ?
Très étonnant. C'est un vieux rêve. Là, on a 600 mètres carrés à nous. On peut marcher sur toute cette surface. Et 600 mètres carrés, ça représente une dizaine d'arbres, une centaine de lianes et des milliers de plantes épiphytes. Je vous parle pas des animaux qui sont innombrables. Donc, pour des naturalistes, c'est vraiment le paradis.
Ouais. Alors, on observe des choses assez étonnantes. On s'attend pas à vous parler de grenouilles, par exemple, sur la cime des arbres, à 50 mètres du sol, des petites grenouilles.
Des quantités, des millions de grenouilles. Remarquez, c'est pas la peine d'aller jusque-là. On en a dans le midi de la France, hein, des petites grenouilles dans les arbres. Ce qui m'a le plus étonné, je crois que c'est les crabes.
Ah oui. Je
m'attendais vraiment pas à trouver des crabes là-haut.
C'est dans les années 80 que vous avez eu cette idée hein, d'aller explorer la canopée avec le radeau des cimes. Quel type d'études avez-vous mené sur ce radeau ?
Mais écoutez, moi je suis botaniste, donc je me suis occupé des plantes.
Bien sûr.
Mais... Et j'avais des quantités de collègues appartenant à beaucoup de disciplines, des bactériologistes, des généticiens, des entomologistes bien entendu, des gens spécialistes de mammifères, de chauves-souris, d'oiseaux, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde. C'est le sommet de la biodiversité mondiale. Très loin au-dessus de tout ce que la mer et les océans peuvent nous offrir en matière de diversité biologique. Donc c'est vraiment en haut que la diversité se déploie dans toute sa splendeur.
Alors pour qui ne sait pas la regarder, une forêt c'est un endroit très statique où les arbres semblent inertes. Vous, vous avez l'air de voir tout autre chose. Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous promenez en forêt ou sur la forêt ?
Bah écoutez, il faut faire jouer le temps. C'est statique si vous restez dans l'instant présent. Mais si vous imaginez cette même forêt dans 2 ans, dans 20 ans, dans 200 ans, dans 2000 ans, alors là ça devient absolument mobile et même parfois frénétique. C'est très curieux. Les plantes bougent, vous savez. Elles bougent pas au même rythme que nous autres, mais elle bouge. Alors il faut simplement accélérer le temps pour voir ce mouvement. Oui.
Pas au même rythme, parce qu'évidemment elles ont aussi une vie bien plus longue devant elles. Quel est l'âge de l'arbre le plus vieux que l'on connaisse à la surface de la Terre ?
Alors, il y a une compétition très serrée entre différents pays. Pour l'instant, le winner, c'est l'Omasia tasmanica, 43 000 ans. Ça se passe en Tasmanie.
43 000 ans, c'est-à-dire qu'il a germé à l'époque de Néandertal, cet arbre.
Oui, il n'y avait pas Néandertal en Australie, mais enfin, il a germé effectivement quand il y avait deux espèces humaines sur la planète et non pas une seule comme maintenant. Ouais. C'est très étonnant, d'autant plus qu'il n'est pas vieux, il nous enterrera tous.
Ah oui.
À condition qu'on ne le coupe pas, parce que c'est toujours facile de détruire les arbres.
Ouais. Alors vous observez, vous dessinez énormément en forêt, on le voit en regardant vos carnets. Et à force d'attention, eh bien vous avez découvert des choses étonnantes. Vous parlez par exemple de la timidité des arbres. De quelle façon un arbre peut-il être timide ?
Ben, il l'est ou il ne l'est pas. Il y en a une centaine d'espèces qui sont timides sur 100 000, hein, donc c'est pas énorme. Eh ben, c'est des arbres qui refusent de toucher les voisins appartenant à la même espèce qu'eux-mêmes. Il n'y a pas de timidité entre espèces différentes, mais il y en a parfois entre arbres de la même espèce, alors ils ne se touchent pas. Ils laissent entre eux une fissure de timidité d'un mètre de large à peu près, et vu du sol, ça fait une sorte de puzzle tout à fait spectaculaire.
Mais alors ça,
on ne sait pas plus ni comment ça marche, ni à quoi ça sert.
Ah ouais, c'était justement ma question. Ça paraît tout bête, mais comment l'arbre fait-il pour savoir qu'il ne doit pas pousser dans ce sens-là parce qu'il y a une branche et qu'il va rencontrer une branche? C'est presque surnaturel.
C'est pas surnaturel, non. On n'a pour l'instant que des hypothèses, mais je vous les livre.
Oui.
Avec évidemment les risques que ça comporte. L'hypothèse, c'est qu'une plante émet des sons en poussant. Des sons que ni vous ni moi ne pouvons entendre, mais que les plantes voisines entendent. Le son, il est spécifique. Ça veut dire que l'arbre, il sait si son voisin appartient à la même espèce que lui ou pas. Et c'est probablement, mais enfin encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, c'est probablement comme ça que la timidité s'établit.
Mais comment, elles sont où les oreilles de l'arbre ? Comment il entend les sons produits par son congénère ?
Oh, là vous mettez le doigt sur un domaine tout à fait passionnant, mais qui n'est pas facile. Les arbres n'ont pas d'organes. Enfin, j'exagère, ils en ont trois, tige, racine, feuille. Alors qu'un être humain, ça a des centaines d'organes. Eh bien, les arbres, ils ont les mêmes fonctions que nous, mais ces fonctions ne sont pas concentrées dans des organes, elles sont diffuses dans l'ensemble de la structure végétale. Et ça, c'est une approche vraiment très nouvelle de la plante. Un vrai changement de paradigme.
Il y a vraiment des choses incroyables.
C'est tout récent, hein.
Ouais, que l'on commence à peine à découvrir. Par exemple, le diamètre de certains arbres qui varie en même temps que la marée. Donc là encore, on a la lune, le soleil qui agit directement sur la forme. Alors on est à des échelles infimes, hein, mais qui agit quand même sur la forme de l'arbre.
On a des capteurs suffisamment sensibles pour mesurer une variation de diamètre de l'ordre d'un micron, hein, ou un peu moins d'un micron. Eh bien, si on fait ça, on s'aperçoit que c'est exactement en phase avec l'annuaire des marées. Et vous pouvez même repérer là-dessus les vives eaux et les mortes eaux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui, c'est-à-dire les grandes marées et les plus petites marées.
Les grandes marées et les petites marées, c'est ça. Ouais. Et bien, tout ça se retrouve dans l'arbre et c'est prévisible à la minute près puisque c'est astronomique.
Incroyable. Le monde des arbres et de la forêt est un monde qu'on connaît encore très mal. C'est ce dont on s'aperçoit quand on vous lit, tout simplement. Francis Allais.
Vous savez, l'être humain, il est fasciné par lui-même.
Ouais, c'est vrai.
Incidemment, les animaux, il veut bien s'y intéresser un peu. Mais pendant très longtemps, on ne s'est pas du tout intéressé aux plantes. On s'y intéressait uniquement comme fournisseur de nourriture ou de médicaments. Donc c'est bien normal que notre connaissance des plantes, elle soit terriblement en retard. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On est en train de combler des siècles de retard dans notre compréhension du végétal.
Eh bien, on va faire en sorte de combler un peu plus notre retard avec vous cet après-midi. Vous allez nous emmener, Francis Allais, à la découverte des arbres, le temps d'un bivouac dans les forêts tropicales de la planète.
Mesdames, un palier, un palais, c'est éteindre.
Mélissa Lavaux, Angelico dans le temps d'un bivouac.
Ô forêt adorée encore, Fontainebleau, dis-moi, le gardes-tu sur le tronc d'un bouleau ce nom que j'appelais mon espoir et mes forces et que j'avais gravé partout dans tes écorces ? Elle, enfant comme moi, nous allions, le matin, respirer les odeurs de verdure et de thym et voir tes rochers gris s'éveiller dans la flamme.
Un extrait d'un poème de Théodore de Banville. Alors, nous sommes toujours avec notre invité, le botaniste Francis Allais. Nous étions partis pour un voyage en forêt tropicale et nous allons y retourner dans un instant. Mais avant, nous faisons ce petit crochet par la forêt de Fontainebleau. Parce que Francis Allais, si j'ai bien compris, c'est un peu là que votre passion a germé. Vous y faisiez des balades en famille étant enfant et c'est là que vous avez commencé à vous intéresser aux arbres ?
Oui, sans aucun doute. Oui, je suis né pas très loin de cette forêt-là. Et c'était un objectif, effectivement, et ça nous paraissait énorme, évidemment, j'étais tout petit à l'époque.
Ouais. Au fond, toute
petite
votre...
forêt de Fontainebleau, elle a morflé depuis.
Ouais. Comme les forêts primaires dont on va parler dans un instant, mais au fond, toute votre vie, vous avez cultivé, fait croître cette passion d'enfance.
Ouais, ces intérêts-là, c'est forcément enraciné dans l'enfance. Je crois qu'il faut s'y mettre très tôt, pour s'y mettre à fond, voilà. Je dirais ça de n'importe quel secteur d'activité physique ou intellectuelle. Si on s'y met très tôt, on peut le mener très loin.
Et votre goût pour le voyage et l'exploration, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui vous vient de très loin, de familial. Hein. Racontez-nous un peu quelle était la famille allée dans laquelle vous avez grandi. On a l'impression que tout le monde déjà s'intéresse aux plantes et tout le monde s'intéresse aux plantes exotiques.
Oui, c'est exact. Je suis le dernier de 7 enfants. Et tous mes frères et sœurs aînés ont voyagé, donc moi j'assistais, j'étais trop petit à l'époque, mais j'assistais à leur retour et au déballage de leurs bagages avec des choses incroyables. Ça m'a toujours paru normal de voyager. Je n'aimerais pas l'idée d'être coincé où que ce soit.
Votre première expédition en forêt tropicale primaire, vous vous en souvenez forcément ?
Très très bien.
Ouais. Racontez-nous, c'était...
1960 en Côte d'Ivoire. À l'époque, la forêt primaire... Il y en avait partout, il y en avait même entre le centre de l'Orstom où je travaillais et la ville d'Abidjan. Tout ça maintenant, c'est des parkings de supermarchés.
1960, vous aviez l'âge de Darwin quand il a fait son voyage à bord du Beagle et vous découvrez cette forêt africaine. Pour Darwin, c'était la forêt amazonienne.
C'était américain, oui.
C'était
la Mata Atlantica.
Vous avez ressenti, vous citez cette phrase de Darwin dans votre livre, vous avez senti la même exaltation, la même excitation, cette impression que vous ne seriez jamais heureux ailleurs que en forêt tropicale.
J'ai découvert la phrase de Darwin beaucoup plus tard, assez récemment en fait. Et ça m'a fait un immense plaisir de voir que cet homme-là, que j'admire beaucoup, mais qui est plutôt connu pour ses travaux sur les animaux, j'ai découvert qu'il était aussi un ardent protecteur et défenseur de la forêt tropicale qu'il a vue pour la première fois, la forêt atlantique du Brésil.
Et quel souvenir vous gardez donc de ce premier contact qui semble-t-il a été décisif, les odeurs, la lumière, la chaleur, l'humidité, les sensations que vous avez ressenties lors de ce premier contact avec la forêt primaire?
J'ai surtout le souvenir de quelque chose que je ne comprenais absolument pas. C'est épouvantablement compliqué, qu'il s'agisse des plantes ou des animaux, la connaissance que nous pouvons avoir de ces forêts-là, elle est forcément collective. Alors j'étais très bien accompagné puisque j'avais mon directeur de thèse avec moi, donc je peux pas me plaindre. Mais malgré tout, nous sommes dépassés par la complexité de ces forêts. C'est ça mon premier souvenir, quelque chose d'épouvantablement intéressant et compliqué.
Forêt primaire, on peut peut-être définir ce terme. C'est quoi une forêt primaire ?
C'est une forêt qui n'a pas été détruite par l'homme. Il n'y a que l'homme qui puisse détruire une forêt. Elle n'a pas été détruite par l'homme, ou si elle l'a été, c'est suffisamment vieux pour qu'elle ait eu le temps de repousser. Le temps qu'il faut, c'est 7 siècles. Donc on peut la détruire, et 7 siècles après, à condition que tout aille bien et qu'on la détruise pas encore entre-temps, elle redevient primaire. Sept siècles, c'est terrible, parce que c'est pas le tempo de notre... économie actuelle, ouais. C'est clair.
Surtout quand on considère que lorsque vous avez commencé, donc il y a 50 ans, ces forêts, elles étaient gigantesques et réparties sur toute la ceinture tropicale. On en trouvait partout. Alors qu'aujourd'hui,
partout, ouais.
partout.
Des confettis.
On aurait fait rigoler les gens en disant que 50 ans après, il n'y en aurait plus.
Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout.
Écoutez, non, il ne faut pas exagérer, mais les derniers morceaux de forêt primaire, ils sont d'accès très très difficiles. Ce qui reste dans les tropiques, majoritairement, c'est des forêts secondaires qui sont beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins belles et beaucoup moins agréables pour les bivouacs.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous focaliser sur ces forêts tropicales? Parce que les plus grandes forêts, en surface en tout cas, et en nombre d'arbres, elles se trouvent juste au-dessous du cercle polaire arctique, la fameuse forêt boréale.
Non, pas du tout.
Cette forêt-là, elle ne vous intéresse pas?
Ça fait froid aux pieds rien que d'y penser. Non. Et puis en plus, il y a beaucoup d'arbres, mais il y a très peu d'espèces.
Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité. Alors, c'est pas du tout divers. Les forêts, qu'elles soient du Québec ou de Sibérie, il n'y a pas de diversité. C'est le même arbre reproduit à des millions d'exemplaires.
Mais qu'est-ce qu'il y a une explication, d'ailleurs, scientifique au fait de cette luxuriance, de cette biodiversité phénoménale qu'on trouve uniquement dans les forêts tropicales?
Écoutez, là, c'est un peu compliqué. Il va falloir qu'on admette que la norme en biologie sur cette planète, c'est l'équateur.
Ouais.
Il faut donc se demander pourquoi il y a de moins en moins d'espèces quand on s'écarte de l'équateur. Et là, ça devient très facile de répondre. À l'équateur, vous n'avez pas d'hiver, pas de saison sèche et pas d'hiver. Si vous vous écartez de l'équateur vers le nord ou vers le sud, vous commencez par affronter des saisons sèches de plus en plus longues et de plus en plus sèches. Et puis si vous montez encore en latitude, vous allez trouver des hivers de plus en plus longs et de plus en plus froids. C'est bien normal que la diversité diminue.
Et alors le temps de la forêt, on l'évoquait tout à l'heure, c'est peut-être pas celui des hommes, mais il se noue entre les plantes et puis même les animaux de véritables drames. Alors il y a des alliances, des courses à l'armement, des meurtres même. Racontez-nous le figuier étrangleur.
Figuier étrangleur. C'est un figuier quoi, c'est tout. Simplement il a besoin de germer dans des endroits extrêmement lumineux.
Ouais.
Il ne germe qu'au soleil. Dans ces conditions, si sa graine tombe au sol sous la forêt, il est foutu. Il germe pas. Donc il va germer en haut des grands arbres, dans les crottes des oiseaux qui sont posées là. Il germe en pleine lumière, il envoie des racines vers le bas, comme tous les ficus, et ces racines se soudent les unes aux autres, comme tous les ficus. La seule différence, c'est qu'il est perché en haut d'un arbre, donc ça fait mourir, dans bien des cas, l'arbre en question. Pas toujours, mais souvent il meurt en effet. Mmh. Et il meurt, il se décompose et il fait un terreau très riche qui profite au ficus.
Donc en fait, il germe sur cet arbre et puis petit à petit, il l'enserre, il le recouvre complètement jusqu'à l'étouffer complètement. Et à s'en nourrir même.
Se nourrir de la décomposition de l'arbre, c'est vrai.
Alors dans votre dernier ouvrage, 50 ans d'exploration et d'études scientifiques de la forêt tropicale, paru aux éditions Muséo, on découvre les pages de vos carnets d'expédition avec les notes et puis les dessins aussi, je le disais. Vous aviez conservé tous ces carnets, il vous arrive de les relire pour vous remettre en mémoire des situations?
Je les relis pas, mais je les utilise quotidiennement. Je viens d'écrire un bouquin pour Actes Sud, ouais, sur la base de ces carnets-là. C'est comme ça que je peux me souvenir de ce que j'ai vu. Et donc j'ai un plus grand soin pour ces carnets qui sont le résultat de tant d'années d'activité dans les forêts qui maintenant ont disparu.
Et alors dans ces forêts, on vous confiait toutes sortes de missions, hein. C'est ce que vous racontez, hein, mission après mission.
Oui.
On voit qu'en Éthiopie, vous partiez à la recherche d'un caféier.
Un bon café, le café d'Arabie, quoi, qui serait capable de pousser au niveau de la mer, ça serait quelque chose de très très remarquable. Et ben, je crois qu'on y est arrivé depuis.
Give me back the good old days now, when we used to rock and dance to the rhythm. Everything was so nice, whenever I go a dance for make war and broke no fight. We're full of joy when we listen to the music, never take it for granted and abuse it. We call it history time, we play foundation and good music every time. Give me back the good old days, when we used to scan to the music. Give me back the good old days now. Oh, I love it, I love it. Give me back the good old days. Give me back the good old time again. Give me back the good old days now. Oh, I love it, I love it.
Tell them, from we little and now grow, we've been doing it.
So when some little fool them want come ruin it, we tell them put one, them put two in it. Tell them fi put black, them put blue in it. Well, none of them come in at the music, get hype in at the music. A bag of things them a go on with. When I write in at the music, start mash up the music. And this all the music. Tell them fi put black, them put blue in it.
Love and unity, come on and rock this song with me. Good old days is here again, yeah. Have to move my feet again, yeah. Good old days now. Musically feeling, musically got the healing. Give me back the good old days when we used to scan to the music. Give me back the good old days now. Oh, I love it, I love it. Give me back the good old days now.
C'était Blundetto, Good Old Days sur France Inter.
J'ai voyagé dans toutes les forêts du monde. À chaque instant, j'ai été émerveillé par la capacité des grands arbres à vivre immobile. Combien de fois ces êtres de bois ont mis au défi ma propre intelligence. Vivre immobile. Ils ont inventé une autre manière d'être vivant, presque imperceptible. L'univers mystérieux du génie végétal.
Ainsi commence le film de Luc Jacquet, Il était une forêt. Ce film est né de votre rencontre, Francis Allais, avec Luc Jacquet. C'est un film, je crois, que vous portiez en vous depuis longtemps. Et c'est cette rencontre qui a enfin fait aboutir ce projet, je dirais même ce rêve que vous aviez, faire un film entièrement tourné vers la forêt avec un regard émerveillé.
C'est vrai, j'ai mis très longtemps à tomber sur le bon cinéaste. Il y en a qui n'avaient pas le temps, d'autres qui n'avaient pas de budget. Et bien, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer Luc. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça le passionnait autant que moi. Et donc, il a fait un film que j'aime beaucoup.
Vous dites, j'ai eu la chance de rencontrer Luc Jacquet. Je crois que lui aussi considère que c'est une immense chance de vous avoir rencontré. Nous l'avions reçu dans le temps d'un bivouac et il nous avait parlé de vous.
Francis Allais, c'est quelqu'un de singulier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, philosophiquement, est en avance sur son temps. Le personnage m'intéressait parce qu'il avait une façon de me parler des plantes qui était vraiment singulière. Et on part, je dis, écoute, allons voir. Et on part 10 jours en Guyane, comme ça. Et je suis époustouflé, parce que d'abord la forêt qui me faisait peur, un peu comme tout le monde, est un lieu de bien-être, de richesse, de foisonnement incroyable. Et je suis là avec un ambassadeur qui me décrypte la vie des plantes, les plantes comme jamais j'ai entendu. Et je me dis effectivement, le film, il est là, c'est faire partager ce que moi là je viens de vivre, et je crois que je vais pousser les portes d'un univers que personne ne soupçonne.
C'était Luc Jacquet, réalisateur du film Il était une forêt. Alors dans son film, Francis Allais, on vous voit toujours un carnet ou une toile devant vous en train de dessiner. Des fois, vous êtes perché au sommet d'arbres de plus de 50 mètres, toujours avec votre calepin. Vous dessinez des dessins qu'on retrouve aussi dans votre dernier ouvrage. Observez une plante, il n'y a pas de meilleur moyen que de sortir un crayon et un papier. La photo, c'est beaucoup moins efficace.
La photo, vous faites clic et c'est fini. Moi, il me faut une heure ou deux pour dessiner un grand arbre. C'est un véritable dialogue avec la plante. La photo, c'est trop rapide. Et puis, je sais bien ce qui se passe. 15 jours après, on se dit, mince, mais où est-ce que j'ai pris ce cliché-là? Non, la photo remplacera jamais le dessin. Pas seulement pour les botanistes, je dirais pour les naturalistes. Il y aura toujours besoin de dessiner, parce qu'il y aura toujours besoin de réfléchir devant le modèle. C'est ce que le photographe ne fait pas, hélas.
Et après toutes ces années d'observation, vous êtes un grand spécialiste reconnu de l'architecture des arbres. Expliquez-nous.
Il y a quelques années, j'ai eu une vraie engueulade avec un mathématicien très, très en vue, qui est mort depuis, qui s'appelait René Thom. René Thom, il prenait l'arbre comme le symbole même de l'aléatoire le plus complet. Il y avait, dit-il, aucune règle dans la disposition des branches d'un arbre. Moi, j'étais pas d'accord parce que justement, je venais de trouver les règles de croissance de centaines et de milliers d'arbres. Et donc, voilà, on s'est engueulé. Ça a été courtois, mais assez musclé tout de même. Et puis après, il a compris, René Thom. Il a compris qu'il avait jeté un regard trop rapide sur les arbres. Bref, les arbres poussent pas n'importe comment. Ils ont un programme interne dicté par leurs gènes.
Vous avez mis en évidence comme des silhouettes, des formes d'armes. Il en existe, si j'ai bien compris, 24 différentes. Alors que vous nous avez parlé d'une centaine de milliers d'espèces, mais sur ces 100 000 espèces, on retrouve toujours, même pour des espèces très éloignées génétiquement, on retrouve comme des formes par lesquelles l'arbre doit passer.
Oui, c'est exact. On a pour l'instant à peu près 100 000 espèces d'arbres sur Terre. Et il n'y a que 24 stratégies de croissance, 24 modèles architecturaux. Il est donc évident que chacun de ces modèles va être utilisé par des centaines, voire des milliers d'espèces d'arbres. Et ces espèces d'arbres n'ont aucune parenté directe. C'est très étonnant de voir un sapin de nos régions, et puis l'arbre qui produit la noix de muscade, qui est un arbre indonésien, construit exactement de la même façon. C'est un exemple, il y en a des milliers comme ça.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas apparentés, mais la sélection naturelle les a fait évoluer, les a fait converger vers une forme très semblable.
On a l'impression en effet que dans l'évolution des groupes de plantes, il y a des stades qu'il faut franchir les uns après les autres et qui se manifestent par l'architecture. Mais c'est encore très très loin d'être complet. Ouais. On est très loin d'avoir résolu tout ça.
Comme sur de nombreux sujets, on est au tout début, c'est ce que vous nous disiez, on a du mal à tout savoir, à tout comprendre. Et il y a vraiment des capacités étonnantes du monde des arbres, comme par exemple le fait qu'ils arrivent. Vous nous parliez du son tout à l'heure en disant ils peuvent s'envoyer des petits signaux acoustiques et les capter. Mais il y a d'autres façons, les arbres communiquent proprement entre eux. Un arbre attaqué peut prévenir l'un de ses congénères quelques centaines de mètres plus loin pour se protéger contre les ravages d'un animal, par exemple.
Oui, ça c'est les années 1990 du siècle dernier. Un arbre attaqué émet des molécules volatiles qui descendent le vent et qui préviennent les congénères de la présence d'un prédateur. Donc les congénères en question, ils captent le message et ils deviennent toxiques. Donc ils évitent de se faire manger. Ça, c'est une chose dont on se doutait pas, c'est vrai. Moi, quand j'étais gamin, les arbres, c'était tout seul, c'était du bois, tout simplement. On aurait fait rigoler tout le monde en disant que c'était des êtres extrêmement sensibles, plus sensibles encore que l'être humain. Ils ont tous nos sens, plus d'autres sens que nous n'avons pas. Alors, évidemment, l'arbre que nous avons devant nous maintenant, c'est pas du tout l'arbre de mes parents, et encore moins celui de mes grands-parents. Ouais. Et encore une fois, je préfère le redire, à mon avis, nous sommes tout à fait au début de la connaissance de ces organismes-là.
Alors il y en a un autre, alors lui, ce ne sont pas les odeurs, les molécules, les composés volatiles qu'il utilise pour communiquer, pour appeler les éléphants, c'est le moabi. Pourquoi il a besoin de faire venir à lui les éléphants? C'est pour que l'éléphant se nourrisse du fruit et aille ensuite disperser les graines. Mais comment fait-il pour appeler l'éléphant, cet arbre?
Ben, si vous voulez, c'est pas très différent d'un son. Le fruit de Moabi, c'est un gros fruit comme une grosse pomme, assez lourde. Ça tombe de 50, 60, 70 mètres de haut. Donc ça fait un choc assez puissant sur le sol. Et l'éléphant, il entend les vibrations par la semelle de ses gros pieds. Donc il sait où ça s'est produit. Et immédiatement, il met le cap sur le Moabi. Donc ça l'intéresse. C'est pas très satisfaisant tout ça, parce que un moabi, souvent il a pas de fruits, et l'éléphant alors s'énerve à le secouer pour faire tomber des fruits. Il n'y arrivera pas puisqu'il n'y a pas de fruits, et il arrive qu'il tue l'arbre en faisant ça.
Ah oui?
Oui, c'est pas absolument sans nuages cette relation.
Oh, vous parlez de nuages, ça aussi quelque chose, on est presque dans la poésie. Certains arbres sont capables d'appeler les nuages et d'appeler la pluie en fait.
Excusez-moi, mais presque dans la poésie, je crois qu'on y est totalement. Je plains ceux qui ne seraient pas sensibles à la poésie de tout ça. Alors les arbres qui appellent la pluie, effectivement, ça c'est une découverte du Brésil. C'est pas vieux, ça a même pas 15 ans. Les arbres de la forêt amazonienne, quand il pleut pas, ils souffrent. C'est des pays très humides, donc il suffit qu'il y ait 2 jours sans pluie, les arbres souffrent. À ce moment-là, ils envoient dans l'atmosphère des molécules volatiles qui servent de germes aux gouttes de pluie. Et dans les heures qui suivent, eh bien, il y a un orage qui se déclenche. Effectivement, ça, c'est une propriété des arbres que nous ne soupçonnions pas. C'est pas réservé à l'Amazonie. C'est tout à fait généralisable. Et maintenant, ça fait partie des capacités reconnues chez les arbres de pouvoir favoriser la pluie.
Il y a vraiment cette idée de, pour pouvoir vivre immobile, on a intérêt à avoir développé un bon nombre de stratégies pour pouvoir faire venir les nuages, les animaux et les autres à soi.
Je voudrais me permettre une métaphore.
Oui.
Je propose qu'on les regarde comme des extraterrestres. Ils ne le sont pas, bien sûr, ils sont aussi terrestres que vous et moi. Mais j'imagine qu'un astronaute qui débarque sur une planète lointaine et qui voit une forme de vie aussi différente de la nôtre que l'est la vie d'un arbre, il va être profondément intéressé. Eh bien, c'est ce qu'on a devant nous. Je propose qu'on les regarde un peu comme des extraterrestres. On n'a pas de langage commun, mais ils n'ont pas de mauvaises intentions à notre égard. Et simplement, avec un alien, faut être prudent, faut prendre du temps, il faut les regarder avec sympathie. C'est ce qu'on est en train de faire.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, justement, en parlant de ces extraterrestres, pourtant aussi terrestres que nous, qu'ils ont développé une forme d'intelligence? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus chez certains botanistes, biologistes végétales. Cette façon de s'interconnecter, d'interagir, c'est une forme d'intelligence très différente de la nôtre, mais c'est une intelligence quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, je suis pas d'accord. Tout simplement parce que le mot d'intelligence, il est fait pour l'être humain, par l'être humain et pour lui, il s'applique relativement bien aux animaux, s'applique pas du tout aux plantes. On les sous-estime en les qualifiant d'intelligentes.
C'est joli. On les sous-estime en les qualifiant d'intelligentes. Comment faudrait-il les qualifier alors?
Ben, je sais pas. Je m'aperçois que le langage commun que nous utilisons, vous et moi, il n'est pas adapté aux plantes. On va pas faire un langage particulier pour les plantes, mais il faut reconnaître que nos mots ne sont pas les bons. C'est un vrai problème pour moi qui écris sur les plantes.
Une chose est sûre, hein, concernant ces arbres et ces forêts, on l'a bien compris, l'essentiel reste à découvrir. Vous dites aussi, on pourrait s'inspirer, c'est ce que on appelle aujourd'hui la permaculture, ce qu'on appelait autrefois l'agroforesterie. Là, il y a une possibilité de regarder la forêt, de s'en inspirer et de faire mieux.
Sans aucun doute, ce qu'il faut à nos systèmes agricoles contemporains, c'est d'y introduire les mécanismes forestiers. Dans une forêt, vous ne mettez pas d'engrais, vous ne mettez pas d'herbicides ni de pesticides, et pourtant vous avez les plus grands arbres et les plus beaux. Il n'y a pas de maladies, il y a une productivité énorme. Donc il faut saisir ces propriétés-là de la forêt et les intégrer à nos systèmes de culture actuels. Je crois que c'est en bonne voie, ça. Sur ce plan-là, je suis tout à fait optimiste.
Ah, voilà, une note optimiste pour terminer. Un grand merci à vous, Francis Allais. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, 50 ans d'exploration et d'études scientifiques de la forêt tropicale. C'est aux éditions Muséo. Merci, Francis Allais.
Je vous en prie. Shine like the sun. Strange.
Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond sur France Inter. Et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka.
T'aimes mes feuilles?
Oui. C'est comme moi!
Daniel Fievé.
Je peux te dire un court poème?
Le temps d'un bivouac.
Oh, c'est la cueillette! Qu'est-ce que vous foutez? On cueille.
Sur France Inter.
Nous poursuivons notre bivouac sur la planète des plantes avec Jacques Florentin, ethnopharmacologue, maître de conférence à l'université de Metz et auteur d'un livre intitulé « Du bon usage des plantes qui soignent » aux éditions Ouest France. Il nous emmène à la découverte de flores lointaines, mais aussi à la rencontre d'hommes et de femmes qui connaissent leurs bienfaits. Les prières du muezzin au Yémen qui résonnent. Nous sommes en compagnie de Jacques Florentin, le temps d'un bivouac sur France Inter. Jacques Florentin est ethnopharmacologue, il étudie les plantes qui soignent. Et il va parfois les étudier très loin. Il est par exemple allé au Yémen. Et ce voyage au Yémen, je crois qu'il y a un endroit qui vous a particulièrement plu, sur lequel vous êtes allé et revenu, le Jabal Sabir. Qu'est-ce donc ? Je ne sais pas si je prononce bien.
Le Jabal Saber.
Saber, pardon.
Et oui, c'est une très très belle montagne qui était juste... notre hôpital était au pied de cette montagne de 3000 mètres d'altitude. Et il y avait une petite piste qui permettait d'aller dans ces villages. Mais très souvent, elle était emportée par les quelques pluies d'été. Et il y a tout un réseau de promenades à travers les villages tout à fait exceptionnel. Et on y retrouve le Yémen traditionnel. Et quand on part plusieurs jours pour marcher dans la montagne à la découverte des gens, des paysages et des péripatéticiens, eh bien, dès la tombée de la nuit, dès 4h ou 5h, quand on traverse un village, déjà, spontanément, les jeunes vous disent « Mais vous allez où ?»« Ben, on va dans tel village. »« Mais attendez, il va faire nuit, vous voulez pas rester ici, on va vous trouver une maison. » Et donc, on va voir le chef de village et il propose à un habitant de nous offrir l'hospitalité. Donc, cette hospitalité yéménite, elle est exceptionnelle.
Mmh. Alors, cet endroit, il vous a plu aussi parce que s'y trouvent de nombreuses espèces végétales. À quoi ça ressemble ?
Alors, en fait, le pays est façonné de terrasses. Et c'est une invention extraordinaire qu'ont fait les Yéménites depuis des siècles. C'est d'avoir façonné la montagne en terrasse, donc des petits murets de pierre qui font entre 1 et 4 ou 5 mètres de hauteur, sur parfois un seul mètre de largeur, parfois 7-8 mètres. Ils y accumulent donc la terre. Parfois même, la terre a été remontée de la vallée. Et ça permet, avec une seule forte pluie, de faire un cycle végétal. Et donc, ça permet à ces Yéménites d'avoir des plantes alimentaires. Et ces terrasses doivent être entretenues, parce que si on n'entretient pas les murets, la terre arable descend. Et j'ai vraiment très peur de cette horrible guerre civile qui sévit actuellement, des déplacements de population, que ces terrasses ne soient plus entretenues, et que du coup, le grenier arabe de cette presqu'île soit détruit à tout jamais.
Alors il y a les plantes cultivées, d'autres sauvages. Quelles sont les plantes que vous avez découvertes dans ce pays ?
J'avais moi pour objectif de recenser les plantes médicinales, de les récolter, de les mettre en herbier, et pour chaque plante mise en herbier, d'avoir des informations sur son usage thérapeutique. Est-ce qu'on les associe avec d'autres plantes? Quelle posologie, etc.? Quelles contre-indications?
Alors, donnez-nous des exemples de ces plantes. Il y en a certaines que l'on connaît dans nos pays.
Oui, alors le Yémen, il a déjà cinq plantes exceptionnelles. Bon, c'est pas celle que j'ai recherchée en premier parce que j'ai trouvé beaucoup de plantes que personne ne connaît, mais cinq exceptionnelles. La première, on pourrait dire, c'est déjà la myrrhe et l'encens. Donc, ce sont des gommes résines. Autrement dit, à partir d'un tronc qu'on va inciser, l'arbre va exuder un espèce de latex, un suc qui durcit, et c'est la résine d'encens ou la résine de myrrhe. C'est des arbres qui ne poussent qu'au Yémen ou dans d'autres parties de l'Arabie, la Dramaout ou un peu en Afrique de l'Est. Et cette résine, elle est mystique et mythique, parce que toutes les civilisations se sont battues pour pouvoir contrôler les sites de production. Ça a tout de même été les deux offrandes à l'enfant Jésus. L'encens et la myrrhe.
Les rois mages.
Voilà, les rois mages vont apporter l'encens et la myrrhe. Les deux viennent du Yémen, c'est quand même curieux. Cet encens a fait l'objet de querelles épouvantables. Déjà Alexandre le Grand, quand au 3e siècle avant Jésus-Christ, il est parti fonder Alexandrie, il s'est arrêté à Socotra et a essayé d'occuper des sites de production. Parce que les Grecs faisaient grand usage déjà de cet aromate. Ensuite, ça a été les Romains qui ont envoyé une expédition. Et puis, ça n'a pas arrêté. Mmh. Et finalement, les Yéménites se sont toujours bien défendus et ont jalousement conserver la production et la vente de leur encens.
Mais elles ont des vertus thérapeutiques, ces plantes, la myrrhe et l'encens, enfin ces résines. Hein.
Alors, l'encens a une vertu assez exceptionnelle. Déjà, ça chasse les mauvais esprits. Donc ça, c'est important parce que dans toutes les régions du monde, il y a des croyances qui sont liées aux mauvais esprits qu'il faut éloigner. Donc ces fumigations ont un rôle, je dirais, répellent. Et ensuite, ce sont surtout les Indiens en médecine ayurvédique qui ont trouvé des propriétés anti-inflammatoires tout à fait intéressantes de la résine d'encens. Et des travaux récents montrent même que cette résine a un intérêt thérapeutique dans des maladies comme l'érectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, qui sont des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc on a là un médicament très ancien, mais qui s'ouvre vers la modernité avec ses propriétés récemment démontrées.
Et vous avez découvert des plantes, notamment une aloe, c'est ça?
Oui.
Aloe, alors, sur les hauts plateaux du Yémen, et depuis, c'est très chic, elle porte votre nom, l'aloe florentinorium, ou aloe de Florentin. Je pense que...
C'est l'aloe des Florentins, florentinorum, oui.
D'accord. Et alors, comment c'est arrivé? Comment on trouve cette plante? Surtout qu'apparemment, elle n'est pas toute petite, elle fait 70 cm de hauteur. Comment se fait-il qu'elle n'avait pas été répertoriée?
Là, j'ai eu un petit peu de chance, mais déjà, l'aloès, parlons juste de l'aloès, parce que c'est connu du monde entier maintenant, puisqu'on a des médicaments à base d'aloès, on a des crèmes à base d'aloès, des sticks à lèvres, etc. Enfin, c'est vraiment un produit à la mode. Et cet aloès est, au départ, c'est l'aloe vera, génétiquement originaire du Yémen. C'est-à-dire, c'est de là qu'il est parti, il ne poussait nulle part ailleurs, et maintenant, il est cultivé dans le monde entier. Alors quand on a une feuille d'aloès et qu'on la coupe de manière transversale, on a un petit suc brunâtre, jaunâtre qui s'écoule. Ça, ce sont des anthraquinones, c'est un laxatif puissant qui est connu depuis la médecine grecque, depuis plus de 2000 ans, et qu'on a aujourd'hui en pharmacie comme laxatif. Mais si on coupe la feuille dans le sens longitudinal, il y a un gel à l'intérieur, et ce gel est anti-inflammatoire, cicatrisant et antibactérien. Remarquable. Alors, pour revenir à l'histoire de l'aloe florentinorum...
Votre aloe, voilà, à vous.
J'aimais bien les plantes succulentes, les plantes grasses, et donc, dans toutes mes excursions botaniques et dans toutes mes enquêtes, quand il y avait des plantes grasses, je les récoltais, je les replantais dans le jardin que j'avais à Taiz. Il y avait les aloès, plusieurs espèces, il y a plus de 15 espèces au Yémen, pratiquement toutes endémiques. Il y avait des caralumas, il y avait des asclepiedia, etc. Et donc, un jour, il y a un botaniste grec, spécialiste des plantes grasses de l'Afrique de l'Est et de l'Arabie, qui a entendu parler qu'à Taiz, il y avait un Français qui s'intéressait aux plantes. Donc il est venu me voir, on a regardé les 50 espèces du jardin, il m'a dit, en voilà trois que je n'ai jamais vues. Et donc, on est parti dans l'endroit où elle poussait. Et l'une des trois pousse à 30 km au nord de Sanaa, et c'est ce fameux aloès. Il a donc fait une récolte, il a été à Kew Garden pour vérifier l'identité botanique, il est revenu un an après en me disant, voilà, c'est une nouvelle espèce, et il a eu la gentillesse de me la dédicacer.
C'est une fierté?
Très, oui. Parce que je ne suis pas spécialiste de la botanique du Yémen, mais c'était gentil de me l'avoir dédicacé. Et alors je me suis dit, comment se fait-il que les botanistes, voyageurs ou explorateurs des siècles précédents
soient passés
pas
à côté.
Ben oui, parce qu'ils avaient décrit toutes les autres pratiquement.
Ouais.
Eh bien, au nord du Yémen, à 30 km, c'est là qu'elles poussent, c'est la zone des tribus. Et dans ces zones-là, elles sont toujours, et encore aujourd'hui, réputées incertaines. Parce que l'État central a du mal à contrôler ces régions nord qui ont toujours des velléités d'indépendance. Et c'était le cas à l'époque de l'imam et des grandes explorations botaniques. Donc les botanistes passaient à Sanaa, passer, redescendait ensuite à Aden, passer par Taiz, mais n'allait jamais au nord. Et c'est là qu'elle pousse.
Dans de très nombreux pays, on utilise les plantes pour se soigner. L'exemple de la Chine est un exemple bien connu.
C'est une plante de la famille des chrysanthèmes. On l'appelle Kuchukao. C'est une plante non toxique qui peut être transformée en médicament. Et tu peux même la cuisiner. Ça, c'est Mao Zokao, l'herbe que mangent les chats. On s'en sert aussi pour soigner la tuberculose.
Qu'est-ce que c'est ça?
Welling Jiang. C'est pour soigner les rhumatismes, soulager les douleurs, faire transpirer et lutter ainsi contre le froid. Celle-ci s'appelle Krusang.
Et à quoi ça sert?
C'est pour calmer le feu dans le corps. C'est ce qu'on appelle une plante froide.
Extrait à nouveau de Médecine d'ailleurs, la série documentaire diffusée sur Arte avec Bernard Fontanil qui rencontrait un herboriste chinois, Shulong Ho, Jacques Florentin. Est-ce qu'elle fait particulièrement appel aux plantes, cette médecine? En tout cas, c'est l'image qu'on en a.
Oui, effectivement, la médecine chinoise va utiliser beaucoup de plantes, mais aussi des animaux, des minéraux. Mais les plantes, c'est l'essentiel. C'est une médecine qui a plus de 2000 ans, qui est de tradition écrite. C'est-à-dire que le savoir va se transmettre de génération en génération au travers d'écrits. Donc il y a les fameux pensao, qui sont les pharmacopées végétales. La première date du début de la chrétienté. Et ensuite, tous les 500-600 ans, il y a une pharmacopée remarquable qui est rééditée. Et qui aujourd'hui, cette médecine traditionnelle chinoise est enseignée à l'université. Il y a des hôpitaux de médecine traditionnelle qui utilisent principalement des médicaments à base de plantes. Mais alors sous toutes ses formes. C'est-à-dire dans un hôpital chinois traditionnel, vous allez trouver les tisanes à l'ancienne, donc des tiroirs avec des tas de plantes. Oui. Il y aura une ordonnance qui sera prescrite et les préparateurs vont confectionner cette tisane complexe. Mais il y aura aussi des médicaments tout à fait modernes. J'ai eu l'occasion de visiter avec le ministère de la Santé chinois une usine aux normes de la Food and Drug Administration, c'est-à-dire en surpressurisé, etc., qui fabrique des médicaments à base de plantes en gélules, en comprimés, en injectables. C'est vraiment impressionnant.
Est-ce qu'il y a des tendances que l'on retrouve dans les différentes médecines ?
Alors, il y a effectivement des points communs, mais elles sont plutôt situées par rapport à la zone géographique. J'ai été surpris, en allant dans le désert de Gobi, en Mongolie récemment, de trouver une flore qui est proche de notre flore européenne. Parce qu'on aura des espèces différentes, mais des genres communs. Et donc, il y a effectivement des parentés. On retrouve aussi ce genre de similitude avec les flores du Canada. Et du coup, les traditions ont sélectionné à peu près les mêmes plantes aussi, les mêmes genres. Parce que on suppose qu'elles ont des principes actifs voisins, voire communs. Et donc, ils en ont déduit des propriétés similaires.
Comment vous arrivez à convaincre sur le terrain ? On imagine des guérisseurs, il y a un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, ça doit se faire dans la confiance. Comment vous, occidental, vous arrivez et vous parvenez à percer ces secrets, à ce qu'on vous les livre en tout cas ?
Alors quand on fait des séjours courts sur un pays, c'est plus difficile d'élaborer des contacts suivis. C'est évident, hein, quand on va 15 jours dans un pays, ça reste superficiel. Mais n'empêche que, en connaissant bien les plantes, j'arrive très vite à avoir beaucoup d'échanges sur ce que je reconnais et sur ce que l'informateur peut m'apporter. Autrement, au Yémen, c'est un climat de confiance qui doit s'installer. C'est sûr que lorsqu'on a un statut dans le pays, qu'on n'est pas là simplement pour aller prendre leurs recettes ou leur savoir, parce que souvent c'est comme ça qu'ils considèrent les enquêteurs, des gens qui viennent prendre leur savoir pour ensuite le développer au niveau industriel, et que par la suite on leur revend des médicaments avec leur connaissance.
Donc il y a une vraie méfiance.
Il y a une méfiance, et elle est justifiée. Moins maintenant, parce que ça devient très compliqué de faire un médicament à base de plantes, mais il y a une méfiance au départ. Donc il y a un climat de confiance à instaurer, et quand ce climat de confiance est instauré, on dialogue sur les plantes, on revient plusieurs fois. Au début, on parle de choses et d'autres, de la famille, un petit peu de banalité. Et puis au deuxième échange, c'est plus intéressant. Et si on voit qu'au troisième, on parle toujours des mêmes plantes, on ne revient plus, on va trouver un autre informateur. Mais ça se fait très facilement.
Vous diriez que la médecine avec les plantes, c'est une médecine alternative ou c'est une médecine qui doit venir en complément de notre médecine occidentale ?
Non, c'est vraiment une médecine complémentaire. On ne remplace pas la médecine que l'on a actuellement, qui a fait ses preuves en gagnant en espérance de vie, etc. Mais on l'apporte en complément. On doit plus utiliser ces plantes, moins d'effets secondaires, beaucoup d'efficacité. C'est extrêmement intéressant.
Les épreuves sont terminées ? Il n'y a pas un dragon qui passe par là ? Personne à délivrer ? Mais c'est la retraite. Passe-moi mes chaussons, maman.
Ainsi s'achèvent ces 8 semaines de bivouac. Avant de plier bagages, je voudrais adresser un immense merci à l'équipe de baroudeurs tout-terrain qui m'a accompagné tout l'été. Merci aux réalisatrices et réalisateurs pour la mise en onde de nos excursions. La bouillonnante Anne-Sophie Ladonne qui a insufflé toute son énergie à l'émission en juillet. La rayonnante Marion Lelay qui a brillamment pris le relais en août. Et le rassurant Clément Nouguier qui nous a permis d'atterrir en douceur cette semaine. Merci aux deux attachés de production sans qui je ne serait rien. Sophie Vaux qui allie mieux que personne efficacité et sérénité. Mathieu Aouet pour sa ténacité et sa réactivité à toute épreuve. Merci aussi au passage à Camille Jusot pour le dépannage en urgence. Merci également aux stagiaires qui se sont démenés tout l'été avec beaucoup d'applications et de bonne humeur. Le dynamique Alexandre Chaune, la consciencieuse Solène Vary et la pertinente chasseuse de son Cyrielle Laborde. Merci enfin aux techniciens de France Inter qui ont pris la la route avec nous. Et un immense merci à vous, amis auditrices et amis auditeurs, de nous avoir suivis dans nos explorations. Pour prolonger le voyage, tous les bivouacs de l'été sont encore disponibles en podcast. D'ailleurs, surveillez notre fil de podcast. Il n'est pas impossible que vous ayez de nos nouvelles prochainement. Et pour être sûr de ne rien rater et garder le contact, il y a toujours la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Antoine Decaune à 16h et Charline Van Honecker et toute sa bande à 17h. Je vous laisse donc entre de bonnes mains. Très belle rentrée à toutes et à tous. Je vous souhaite qu'elle soit riche en aventures.